VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
Midi à Nouakchott, 13h à Yaoundé, bienvenue à notre journal. Un avion de ligne d'Égypte en reliant Paris au Caire avec 66 personnes à bord s'est écrasé en Méditerranée après avoir disparu des écrans radars pour une raison encore inconnue. Accident ou attentat, aucune information n'est encore disponible pour expliquer la soudaine disparition de l'Airbus A320. L'appareil s'est écrasé au large de l'île grecque de Karpathos, au sud-est de la mer Égée. L'Égypte et la Grèce sont dépêchés dans la zone des avions et des navires pour tenter de trouver l'appareil. Plus de détails avec Lionel Gaïma.
Le vol MS-804 a décollé à 23h09, heure de Paris, avec 66 personnes à bord, dont 30 Égyptiens et 15 Français selon l'AFP. Le vol MS-804, un Airbus A320, s'est trouvé à 37 000 pieds d'altitude et était entré dans l'espace aérien égyptien quand il a disparu des radars jeudi à 2h45, heure du Caire, a d'abord précisé Égyptair sur son compte Twitter. L'appareil transportait 56 passagers, dont un petit garçon et deux bébés, ainsi que 7 membres d'équipage et 3 officiers de sécurité, a ajouté plus tard la compagnie nationale dans un communiqué. Des appareils et navires de secours civils et l'armée passaient la zone au peigne fin en mer Méditerranée dès le milieu de la nuit, selon le communiqué de la compagnie aérienne. Égyptair a publié une liste énumérant les nationalités de 56 passagers, 30 Égyptiens, 15 Français, un Britannique, un Canadien, un Belge, un Portugais, un Algérien, un Soudanais, un Tchadien, 2 Irakiens, un Saoudien, un Koweïtien. La France n'écarte aucune hypothèse et va coopérer étroitement avec l'Égypte pour en élucider les circonstances, ont assuré jeudi matin les dirigeants français.
En Libye, le gouvernement d'Union a exhorté la communauté internationale à accélérer son réarmement après la mort de 32 membres de ses forces dans un attentat et des combats avec le groupe djihadiste État islamique. Le nouvel exécutif libyen installé à Tripoli demande à la communauté internationale d'accélérer la réalisation de ses promesses, notamment au sujet de la levée de l'embargo sur les armes. Conflit en Libye toujours, prêt à lever l'embargo sur les ventes d'armes. La communauté internationale n'a toutefois pas l'intention d'intervenir militairement pour soutenir le gouvernement d'Union. Eric Manirakiza a joint aux États-Unis le directeur de communication de Human Rights Watch en charge de l'Afrique du Nord et du Moyen-Orient, Ahmed Ben Shamsi.
D'un point de vue de droits de l'homme, qui est notre préoccupation principale à Human Rights Watch, c'est que nous enjoignons avec insistance toutes les parties qui ont pris cette décision, c'est-à-dire les puissances occidentales, à faire en sorte de vérifier vers qui vont ces armes. Parce que cette erreur a été commise dans le passé, les armes ont été données à des rebelles pour lutter contre le régime Kadhafi, ce qui pouvait sembler comme un but légitime à certains, vu toutes les exactions qui avaient lieu. Et puis au final, une bonne partie de ces armes sont retrouvées entre les mains de groupes qui ont commis des exactions avec et qui ont commis des violations de droits de l'homme. Donc aujourd'hui, nous demandons à toutes les nations qui vont donner ces armes de faire très attention à qui elles les donnent et de faire attention à ce que ces armes, au bout du compte, ne se retrouvent pas entre les mains de groupes armés qui vont les utiliser pour commettre des violations de droits de l'homme.
Ils ont été très précis, les armes vont être données au gouvernement de l'Union nationale et les factions seront toujours frappées par l'embargo sur les armes.
Il faut vérifier entre les mains de qui les armes arriveront au bout du compte.
Vous avez sorti un rapport sur Daesh en Libye, c'est quoi exactement?
Et nous avons pu interviewer des habitants de Sirte, des personnes qui avaient fui Sirte, des membres des familles de personnes qui avaient été exécutées par Daesh. Et l'image qu'ils nous ont dressée de la vie sous Daesh à Sirte est absolument effrayante. D'abord, il y a 49 personnes au moins, je dis bien au moins, qui ont été exécutées par Daesh. Et nous parlons d'exécutions absolument atroces, hein, des gens dont la tête a été coupée, d'autres personnes qui ont été vêtues de cet habit orange qui est maintenant caractéristique des détenus de Guantanamo et qui ont été proprement crucifiés sur des places publiques. Donc des scènes d'horreur comme ça. Évidemment, ces exécutions, elles résultaient de procédures qu'on n'ose même pas appeler judiciaires, qui étaient absolument expéditives et qui ne garantissaient absolument pas le droit à un procès équitable. Il y a des patrouilles de Daesh qui patrouillent dans les rues et qui peuvent punir des gens ou les condamner pour des motifs incroyablement aberrants, comme la sorcellerie, l'espionnage ou des choses comme ça. Il y a des gens qui ont été tués pour sorcellerie, pour espionnage, d'autres qui ont été tués pour blasphème. Des patrouilles, encore une fois, qui vérifient si les femmes portent bien la baïa noire totalement opaque. Si un homme fume, il peut être puni pour ça. Des patrouilles de Daesh qui rentrent dans des maisons au milieu de la nuit et qui kidnappent des hommes dont le destin devient inconnu. Enfin, c'est une vie absolument de cauchemar.
Est-ce possible de chasser Daesh et d'autres groupes terroristes?
C'est une question qu'il faudrait peut-être adresser à des acteurs militaires sur le terrain.
Ahmed Ben Shamsi, joint ici aux États-Unis.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Mauritanie, au lendemain de sa libération, le leader anti-esclavagiste mauritanien Biram Da Abeid a annoncé sa détermination à briguer à nouveau la présidence. Les précisions de John Lyndon.
Arrêté en novembre 2014, Biram Da Abeid et son vice-président Brahim Ould Bilal avaient écopé de 2 ans de prison en janvier 2015 après avoir été reconnus coupables d'appartenance à une organisation interdite et organisation d'une manifestation interdite, entre autres. Arrivé en deuxième position lors de la dernière présidentielle, Biram Da Abeid a annoncé son intention de se porter candidat à nouveau, déclarant à l'agence Reuters que son intention est d'accéder à la magistrature suprême par le vote, la voie pacifique et démocratique. Ses activités anti-esclavagistes l'avaient conduit en prison à 2 reprises avant son tout dernier emprisonnement. L'esclavage est un crime contre l'humanité en Mauritanie, où il toucherait entre 4 à 20% de la population. Lundi, 2 propriétaires d'esclaves ont été condamnés chacun à 5 ans de prison et ordonnés de verser des compensations à leurs 2 victimes.
Au Nigeria, plus de 2 ans après leur enlèvement à Chibok, l'une des 219 lycéennes a été retrouvée pour la première fois saine et sauve. Le point avec Nani Talani.
La lycéenne Amina Ali avait 17 ans lors de son enlèvement. Elle a été retrouvée mardi au cours d'une patrouille de l'armée et de miliciens d'autodéfense dans la forêt de Sambisa, dans l'état de Borno. Sur une photographie fournie par l'armée, on peut voir une jeune femme hébétée sous un hijab et portant un bébé présenté comme sa fillette de 4 mois. Elle a été ramenée à sa mère dans sa localité natale de Mbalala, près de Chibok. Le mouvement Bring Back Our Girls assure que la jeune fille leur a confié que les autres lycéennes sont toujours captives et qu'au moins 6 d'entre elles sont déjà mortes. En avril 2014, Boko Haram avait enlevé 276 jeunes filles d'une école secondaire de Chibok. 57 d'entre elles avaient réussi à s'échapper. Stephen O'Brien, patron des opérations humanitaires de l'ONU en visite à Maïdougouri, a déclaré que ce retour était une nouvelle formidable, mais a rappelé que des milliers d'autres personnes sont toujours aux mains de Boko Haram.
Cameroun. L'armée camerounaise poursuit sa lutte contre la secte islamiste Boko Haram avec des résultats encourageants. Des détails avec Guy Baye Gatama, directeur de publication du journal L'Œil du Sahel, au micro de John Lyndon.
Aujourd'hui, l'armée camerounaise comprend mieux le fonctionnement de la secte parce qu'elle a arrêté les soufis, elle a arrêté les logisticiens et maintenant elle arrive à capturer les têtes pensantes, les opérationnels. Donc elle maîtrise mieux son adversaire et ça permet à ce qu'elle mène des opérations beaucoup plus ciblées, beaucoup plus pointues et qui peuvent apporter de bons résultats. Mais je dois dire que la secte avait atteint un certain niveau de déstabilisation qui était élevé aussi. Et que malgré tout ce que l'armée camerounaise fait, ce que l'armée nigériane est également en train de faire, il reste encore beaucoup à faire. Parce que vous avez des zones comme le lac Tchad qui est encore, malheureusement, qui est encore sous contrôle de la secte. Ou en tout cas, où les deux armées n'arrivent pas à faire de bonnes percées comme ailleurs.
Qu'en est-il des groupes d'autodéfense qui, à un moment donné, ont aussi participé à cette lutte contre Boko Haram?
Écoutez, ce succès de l'armée camerounaise n'aurait pas été possible, du moins à ce niveau, si les groupes d'autodéfense ne s'étaient pas eux-mêmes concentrés sur l'objectif. Ce qui fait que les militaires sont plus libres d'opérer parce qu'ils ne sont plus affectés à des tâches de surveillance des entrées de villes, des surveillances des localités, des activités de routine. Donc l'armée peut rester concentrée efficacement sur son objectif et laisser les autres aspects au comité de vigilance. Jusqu'ici, ça se passe très bien. Il y a quelques problèmes d'organisation, de logistique même de ces groupes d'autodéfense, même parfois de rémunération, parfois de petits mouvements d'humeur. Mais comme c'est un phénomène qui est nouveau, ça prendra du temps pour qu'il soit structuré. Mais c'est la combinaison de ces deux facteurs, comité de vigilance armé, c'est cette combinaison-là qui donne ces résultats aujourd'hui.
Guy Baye Gatama, directeur de publication du journal L'Œil du Sahel, joint par John Lyndon au Cameroun. Plus d'infos sur notre site internet voaafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.